Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, Nathalie Barge pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition du 27 août 2014, l'OMS et la Banque africaine de développement accordent 60 millions de dollars aux pays touchés par Ebola en Afrique de l'Ouest.
Cette épidémie à virus Ebola demeure très préoccupante car le nombre de cas ne cesse d'augmenter.
Luis Gomez-Sambo, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire, voisine du Libéria et de la Guinée, est en état d'alerte.
Le risque est grand pour la Côte d'Ivoire. Le Libéria est très atteint.
Raymond Goudou-Koffi, ministre de la Santé. En Centrafrique, dissension au sein des deux principaux mouvements politico-militaires. Avant de développer ces titres et d'autres sujets d'actualité, voici le journal.
La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a limogé des ministres et autres responsables en mission à l'étranger qui n'ont pas obéi à son ordre de regagner le pays pour prendre part à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Par ailleurs, le coordonnateur de l'ONU pour la lutte contre l'Ebola, le docteur David Nabarro, a appelé à une opération humanitaire en faveur de l'Afrique de l'Ouest. Le point avec Issia Kaba.
En rapport avec l'état d'urgence qu'elle a décrété le 6 août, la présidente Sirleaf avait ordonné aux ministres se trouvant hors du pays de rentrer sans délai. Tous les responsables occupant des fonctions de niveau ministériel ou leur équivalent dans la haute administration qui ont violé les ordres sans relever de leurs fonctions a fait savoir à la présidence libérienne que cite l'AFP. Autre mesure prise par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, les responsables d'importants services publics verront leur salaire gelé jusqu'à leur retour au pays. Selon les dernières données, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 1400 morts en Afrique de l'Ouest, dont 624 au Libéria, pays le plus touché. En Sierra Leone, l'OMS a fermé l'un de ses deux laboratoires d'analyse après qu'un de ses agents, un épidémiologiste sénégalais, eut contracté la maladie. De passage en Guinée, le coordinateur de l'ONU pour la lutte contre l'Ebola, le docteur David Nabarro, a dit qu'avec la poussée soudaine de nouveaux foyers de l'épidémie ces dernières semaines, il est urgent d'envisager une opération humanitaire régionale, rapide et de grande envergure pour arrêter l'épidémie dans un délai maximum de 6 mois.
En Centrafrique, dissension au sein des deux principaux mouvements politico-militaires. Côté Antibalaka, Sébastien Wenezoui, le coordonnateur adjoint suspendu depuis sa participation aux discussions de Brazzaville, a décidé de faire bande à part, notamment en remettant en activité l'ex-mouvement patriotique pour l'avenir.
C'est un mouvement qui est dans le mouvement Antibalaka. Dans des laps de temps, nous allons faire encore une assemblée générale où on va désigner un bureau. Donc on a besoin aussi même la communauté musulmane de venir dans ce mouvement pour qu'ensemble nous puissions aller de village en village, parler aux belligérants, parler aux chrétiens, parler aux musulmans, de s'accepter et de vivre comme avant.
Sébastien Wenezoui affirme d'ailleurs que le MPA aurait été à l'origine des Antibalaka.
Côté Séléka, les dissensions sont également importantes depuis les affrontements en début de semaine à Bambari entre la faction d'Aline Daras et celle de Joseph Zoundeko. Face à cette instabilité, les États-Unis ont exprimé leur soutien au gouvernement du Premier ministre Mahamat Kamoun et ont lancé des appels à la paix dans un communiqué hier. Washington demande aux Centrafricains de coopérer avec les autorités de transition, de mettre un terme à la violence et de participer pleinement au dialogue national, a déclaré Jen Psaki, porte-parole du département. D'État.
Boko Haram a pris le contrôle d'une ville du nord-est du Nigeria, le long de la frontière avec l'extrême nord du Cameroun. Les combattants de Boko Haram ont investi Ashigashia dans la nuit de lundi à mardi, indique l'AFP, citant un responsable de la police camerounaise. Il n'y aurait pas eu de combat et les militaires nigérians ont fui la ville pendant le week-end pour se réfugier au Cameroun. Les islamistes occupent plusieurs localités au Nigeria, notamment la ville de Gouaza dans l'état de Borno, qui selon eux fait désormais partie d'un califat islamique. Incapable de faire face à cette violente campagne, de plus en plus de soldats nigérians franchissent la frontière pour se réfugier au Cameroun.
Les États-Unis ont l'intention de donner à la Tunisie 60 millions de dollars d'aide militaire pour soutenir le pays contre la menace islamiste. Le commandant d'Africom, le général David Rodriguez, a précisé mardi que l'assistance comprend des équipements de détection de mines, des bateaux et une formation militaire conjointe américano-tunisienne. Le département d'État a déjà approuvé la vente à la Tunisie de 12 hélicoptères de chasse Black Hawk. La Tunisie a été le premier pays d'Afrique du Nord à renverser son gouvernement dans un soulèvement populaire en 2010 et a été relativement calme depuis. Mais le pays fait face à une menace terroriste de groupes liés à Al-Qaïda et craint que l'instabilité en Libye voisine ne déborde à travers la frontière. Les rebelles du Mali ont également trouvé refuge dans les montagnes en Algérie et notamment le long de la frontière ouest de la Tunisie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trêve illimitée entre Israël et le Hamas après un conflit de 7 semaines qui a fait près de 2200 morts. Il s'agit de l'aboutissement des efforts de médiation menés par l'Égypte. Les précisions de Bagassi Koura.
L'annonce du cessez-le-feu a été faite par le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie. La direction palestinienne a accepté l'appel de l'Égypte à observer un cessez-le-feu complet et permanent conformément aux demandes et aux besoins du peuple de Gaza et en vue de reconstruire ce qui a été détruit, a déclaré le dirigeant palestinien. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait savoir de son côté qu'Israël a accepté de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Sous l'accord d'hier, les deux camps se sont engagés à entamer dans un délai d'un mois les pourparlers sur les questions comme la demande par Israël que le Hamas désarme ou celle du Hamas que l'État hébreu mette fin à des années de blocus de la bande de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, l'annonce de la trêve a été saluée hier par des coups de klaxon et des tirs de joie.
Les États-Unis n'ont pas de projet de coordonner avec la Syrie la lutte contre les djihadistes de l'État islamique opérant en Irak et en Syrie, a fait savoir la Maison-Blanche. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le porte-parole de la présidence américaine, John Earnest, a rappelé que Washington ne reconnaît pas Bachar al-Assad comme président de la Syrie et n'a aucune intention de modifier cette politique. Certaines sources rapportent que l'aviation américaine a déjà entamé les vols de reconnaissance dans le ciel syrien pour surveiller les mouvements des militants de l'État islamique en prélude à de possibles raids aériens contre leur position. Le président Obama en avait donné l'ordre lundi, mais les responsables américains s'étaient refusés à dire si les vols avaient débuté. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mualem, a dit de son côté que son pays est disposé à travailler avec la communauté internationale, y compris les États-Unis, contre le péril islamiste. Il a toutefois averti que toute attaque contre l'État islamique en Syrie devra être coordonnée avec Damas.
D'autre part, la Maison-Blanche a confirmé la mort d'un Américain qui aurait combattu aux côtés de militants en Syrie. La porte-parole du Conseil national de sécurité, Kathleen Hayden, a déclaré dans un communiqué mardi que les autorités étaient au courant de la présence de Douglas McCain en Syrie. Un oncle de McCain a déclaré à CNN que ce dernier s'était converti du christianisme à l'islam il y a plusieurs années. Washington estime qu'il y a des dizaines d'Américains combattant avec des militants en Syrie et en Irak. Par ailleurs, le journaliste américain Peter Curtis, qui a été libéré par les militants en Syrie après 2 ans de captivité, est arrivé chez lui hier soir, a indiqué sa famille. Il a publié une déclaration pour remercier les autorités américaines ayant œuvré pour son retour, ainsi que le Qatar, qui a négocié sa libération.
Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, dit qu'il a l'appui pour un plan de paix de tous les dirigeants qui ont participé à un sommet régional mardi au Bélarus, y compris le président russe Vladimir Poutine. Messieurs Poroshenko et Poutine ont discuté en tête-à-tête à Minsk pendant environ 2 heures lors de négociations visant à mettre fin à la crise en Ukraine. Suite à la rencontre, le président russe a déclaré que Moscou va tout faire pour soutenir un plan de paix, mais il a dit aussi que ce serait au gouvernement de Kiev de négocier les termes du cessez-le-feu avec les rebelles. Par ailleurs, M. Porochenko a indiqué qu'une feuille de route pour les négociations de cessez-le-feu sera préparée dès que possible.
Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui. Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington. Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique et le président du groupe de la Banque africaine de développement ont procédé à la signature d'un don de 60 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. Au cours de la cérémonie, la situation des quatre pays infectés par la maladie a été passée au peigne fin par les deux hauts responsables. Voici un reportage de notre correspondant à Abidjan, Germain Dri.
Cette somme destinée au Libéria, à la Guinée, à la Sierra Leone et au Nigeria permettra de mener plusieurs activités d'urgence dans ces pays parce que le président de la Banque africaine de développement estime que l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a atteint un niveau très élevé. Donald Kaburika.
La crise d'Ebola est très préoccupante à plusieurs titres. Malgré des efforts combinés de beaucoup des agences, la crise semble progresser et est en train de devenir la plus grave crise qu'on a connue depuis longtemps. L'urgence est de renforcer nos systèmes de santé, recruter leur personnel, équipés des centres pour accueillir les malades, des laboratoires, des matériaux divers, tests de détection aux frontières, destruction des objets contaminés, toutes choses dont un centre normal de santé devrait avoir pour faire face à ce type d'épidémie. La crise d'Ebola emporte en premier lieu nos vaillants hommes et femmes, personnels dans les services de santé. La crise menace non seulement les vies humaines, mais aussi les systèmes de santé, mettant en péril la capacité de traiter d'autres maladies.
Avec 2615 cas et 1427 décès à la date du 25 août, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pense que la situation est préoccupante. Docteur Louis Sambo.
Cette épidémie à virus Ebola demeure très préoccupante car le nombre de cas ne cesse d'augmenter, surtout en Sierra Leone et au Libéria, et aussi en Guinée. Nous sommes extrêmement préoccupés parce que ce sont des pays avec des systèmes de santé faibles en termes de capacité humaine, en termes de financement, en termes de disponibilité des médicaments et d'autres technologies essentielles pour le soins de santé aux populations.
La Côte d'Ivoire, voisine du Libéria et de la Guinée, est en état d'alerte. Raymond Kofi Goudou, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida.
Le risque est grand pour la Côte d'Ivoire. Le Libéria est très atteint. La panique, la psychose qui est installée au Libéria, cette même psychose, cette même gestion difficile au niveau des agents de santé. Nous, on se dit même à la limite que si cela arrivait chez nous, malgré les mesures que nous avons prises suffisamment tôt en termes de mesures préventives, est-ce que nous n'allons pas nous retrouver avec la panique au niveau de la psychose, au niveau de nos agents de santé.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Dans leur lutte contre l'épidémie d'Ebola, les autorités nigérianes ont interdit la consommation de viande de gibier ainsi que l'utilisation de bêtes sauvages comme animaux de compagnie. Toutefois, à l'approche de la saison sèche, certains chasseurs disent qu'en dépit des risques, ils reprendront leurs activités. Voici un reportage de Heather Murdoch du service anglais de la Voix de l'Amérique, interprété par Timothée Donangmaï.
La scène se passe à Kaduna, dans le nord du Nigeria. Des hommes originaires d'un lointain village sont arrivés dans la ville avec des singes en laisse. Habituellement, les spectateurs viennent nombreux regarder ces animaux vêtus de petits pantalons qui dansent ou miment des gestes quotidiens du monde rural. Aujourd'hui, par peur de l'Ebola, personne ne veut les approcher. Chola Adebayo, père de 5 enfants, explique.
I can never, for now, allow my children.
Pour le moment, je ne peux pas permettre à mes enfants d'aller voir ces singes ou tout autre animal. Je ne m'y intéresse pas du tout à cause de la réalité. Les gens comprennent que cette maladie est en train de se répandre par la transmission. Depuis l'apparition du premier cas d'Ebola au Nigeria en juillet, le gouvernement a conduit une campagne massive de sensibilisation, encourageant les mesures d'assainissement et décourageant tout contact avec les animaux ou la viande de brousse. Le porte-parole de l'État de Kaduna, Ahmed Mayakim, a dit que son gouvernement est en train d'appliquer les mesures déjà en vigueur.
We have a responsibility to safeguard the lives.
Nous avons la responsabilité de sauvegarder les vies et le bien-être de notre peuple. Nous appelons donc les gens à respecter la loi de sorte que nous ne fassions pas des choses nuisibles à la société, dangereuses pour la santé, des choses qui pourraient mener à la mort. Pour l'heure, la saison des pluies force de nombreux chasseurs nigérians à rester à la maison. Moussa Maibigidar chasse habituellement les singes et autres animaux sauvages pour en vendre la viande. Il dit que le syndicat des chasseurs a convenu de ne pas relancer les activités pour le moment, mais dès le retour de la saison sèche, les chasseurs reprendront le chemin de la brousse.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Selon des hauts responsables américains, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont mené des raids aériens contre des islamistes armés à Tripoli, la capitale libyenne, à deux reprises au cours des 7 derniers jours. Les États-Unis ont été pris de court par ce développement que l'Égypte dément. Voyons avec Henri Francisque le point de vue de certains analystes sur cette intervention en Libye.
Les raids ont fait au moins 12 morts. Washington et l'Union européenne tentent de trouver une solution politique à l'impasse qui prévaut en Libye depuis que la communauté internationale a aidé à renverser Muammar Kadhafi en 2011. Le pays a maintenant deux parlements de facto, deux premiers ministres et de nombreux groupes armés. Le nouvel émissaire de l'ONU, Bernardino León, estime qu'aucune forme d'intervention étrangère n'aidera la Libye à sortir du chaos actuel.
Plus de conflits, plus de confrontations, plus de guerres. Une intervention étrangère ne ferait qu'exacerber le chaos et créer ainsi la pire situation pour les pays voisins, l'Union européenne et la communauté internationale.
La Libye a un certain nombre de groupes tribaux en conflit et deux principales factions politiques armées, dont une milice islamiste. Mais pour les analystes, on est en présence d'une guerre civile sans une force terroriste de l'acabit de l'État islamique qui s'est emparé de larges pans de territoire en Syrie et en Irak. Cela n'en inquiète pas moins l'Égypte et les Émirats arabes unis face à une éventuelle montée de l'insurrection islamiste dans la région. Ce qui explique pourquoi ils sont prêts à étouffer dans l'œuf tout groupe qui pourrait menacer le statu quo politique. On en veut pour exemple la répression impitoyable dont les frères musulmans ont fait l'objet en Égypte même. Frédéric Wery, du Carnegie Endowment for International Peace, trouve que l'intervention régionale est une escalade du conflit et un développement dangereux pour la région.
Je pense que ça fait partie d'une plus grande tendance régionale à ne pas être sur la même longueur d'onde que Washington concernant la région. Je suis sûr qu'ils sont intervenus sous prétexte de lutter contre le terrorisme ou ses militants, mais en réalité, je pense qu'ils essaient surtout de déterminer la solution politique en Libye en écartant tout frère musulman ou islamiste.
Selon le professeur Akbar Ahmed d'American University, l'administration Obama est perçue comme portée manquante au Moyen-Orient, où elle jouait traditionnellement un rôle de juge et d'arbitre.
Quand les États-Unis cessent de jouer un tel rôle, on assiste à une dynamique très intéressante. Cela pourrait bien expliquer pourquoi les Émirats arabes unis ont dit « D'accord, vous n'êtes pas ici », ou peut-être « En coordonnant avec les États-Unis, nous allons jouer un rôle plus actif pour établir que nous sommes là-bas avec vous et dans votre camp ».
Malgré ces frappes aériennes, les militants islamistes ont pris le contrôle de l'aéroport de Tripoli et les violences à Tripoli et à Benghazi ont amené plusieurs pays à évacuer leurs citoyens et diplomates de la Libye.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment en finir avec l'État islamique, le groupe terroriste le plus dangereux et le mieux financé sur la planète ? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Aux États-Unis, le nombre d'immigrés africains à New York a nettement augmenté au cours des deux dernières décennies. Venus essentiellement de pays ouest africains, ils avaient l'habitude de vivre en vase clos dans leurs communautés respectives. Mais de nos jours, ils se retrouvent pour célébrer leurs origines communes et faire valoir le poids qu'ils représentent maintenant au sein de la grande métropole américaine. Lionel Gaïma présente un reportage réalisé le week-end dernier dans le Bronx à l'occasion du Festival de la diaspora africaine.
Tambour et tenues traditionnelles aux couleurs vives, conversations dans les langues nationales, sourires aux lèvres, etc. Toute cette joie débordante que l'on voyait dans ce défilé faisait penser souvent à la mère patrie, l'Afrique, plutôt qu'au Bronx. L'un des organisateurs, Bourema Nyambele, est d'origine malienne. Nous venons ici aujourd'hui pour célébrer la diaspora africaine en tant qu'Africain de la diaspora, peu importe où vous avez vu le jour. Nous nous retrouvons tous ici pour célébrer notre culture. La parade aboutit à un parc où s'est tenu un festival de musique et de danse pendant toute l'après-midi. Ça doit se passer comme ça, estime Gandhi Ambrose, un danseur du Cameroun et leader de la communauté dont le chapeau de cérémonie, selon lui, montre qu'il descend d'un roi. Pour lui, l'Afrique est elle-même un festival. L'Afrique n'est que terre de joie et de bonheur, malgré tous les problèmes que nous voyons dans cette partie du monde. Cette joie continue de dominer dans notre façon de faire. Je suis danseur. Les Africains ont la danse dans le sang. Ils bougent. Nous n'avons pas besoin de formation. Nous n'allons pas à l'école pour cela. Nous dansons simplement. Les organisateurs du festival soulignent que la diaspora inclut toute personne ayant des liens culturels avec le continent. Cela signifie les Hispaniques, dont le cha-cha est basé sur des rythmes africains, et les Africains américains, dont le dialecte plat traditionnel rappelle la patrie. Pour les Antillais, comme le Jamaïcain Sadie Campbell, ses racines africaines sont très profondes. Nous avons en nous une partie de l'Afrique, nous venons de là-bas, c'est dans nos gènes et nous en sommes fiers. Mais cela ne signifie point un rejet de la culture américaine, bien au contraire, comme le suggérait le poète et chantre de la négritude, Lopo Cédar Senghor, il s'agit de s'enraciner dans ses propres valeurs de civilisation tout en s'ouvrant au souffle vivifiant de l'extérieur. Pour le libérien américain Charles Cooper, ce n'est pas autre chose qu'une question de similitude, de complémentarité et de symbiose. Vous réalisez vos similitudes. C'est un événement où c'est la joie. Les gens viennent, les gens dansent, les gens s'éclatent. Des gens qui normalement ne parlent pas et se croisent dans la rue sans échanger un mot. Ici, ils se parlent, ils discutent et ils échangent des infos. Selon le directeur de publication du Caribbean News, Carl Rodney, ces différents groupes abordent plus facilement les questions politiques dès que leurs valeurs communes deviennent plus claires.
I think there's a growing awareness that the barriers that separated us previously, African American, Caribbean American, continental African.
On devient plus conscient du fait que les barrières qui nous séparaient auparavant, africains, africains, antillais, africains ou hispaniques, sont toutes artificielles. L'agenda est le même. Si vous voulez un taxi ou des services, ils ne vous demandent pas d'où vous venez, des Antilles ou de l'Afrique. Vous êtes noir, donc nous nous voyons en partenaire de la diaspora noire ou africaine. Et c'est là que nous voyons le potentiel d'une influence politique encore plus grande. C'est la tendance et elle est réelle.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors en football, la première sanction est tombée suite au décès d'Albert Ebossé en Algérie le week-end dernier.
Oui, la jeunesse sportive de Kabylie ne pourra pas jouer dans son stade du 1er novembre à Tizi Ouzou jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'annonce la Fédération africaine de football. La sanction a été arrêtée après une réunion entre la Fédération algérienne de football et la Ligue professionnelle algérienne.
Et cette tragédie a incité la Fédération malienne à demander le report de sa rencontre avec l'Algérie.
Pour des raisons sécuritaires, Bamako a demandé à la CAF une délocalisation de la rencontre Algérie-Mali prévue le 10 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015.
Autre report dans cette course à la CAN, cette fois pour cause d'Ebola.
Par mesure de précaution, la fédération ivoirienne a annoncé que la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone n'aurait pas lieu comme prévu à Abidjan le 6 septembre. Pour le moment, le lieu de la rencontre n'a pas encore été dévoilé.
Et la CAN 2017, Nicolas, ce n'est pas pour demain, mais le Ghana y pense déjà.
Suite au désistement de la Libye, le Ghana, déjà pays organisateur de l'édition 2008, a officiellement fait acte de candidature pour accueillir cette CAN 2017. C'est une candidature à prendre au sérieux, Nathalie, car le Ghana dispose déjà de 4 stades requis à Accra, Kumasi, Sekondi, Tokoradi et Tamale.
Quelques transferts en Europe.
Oui, le défenseur de Bastia, Andri Romaric, a prolongé son contrat d'un an avec le club corse. L'Ivoirien âgé de 31 ans dispute sa deuxième saison avec le club bastiais. Et puis le Stade Rennais a fait signer le défenseur central sénégalais Fallou Diagne pour 3 ans. Et Manchester United a cassé sa tirelire. Officialisation hier de l'arrivée d'Angel Di Maria pour une somme record en Angleterre, 75 millions d'euros. L'international argentin quitte donc le Real de Madrid et s'est engagé pour 5 ans avec les Red Devils. Enfin Nathalie, je vous laisse donner les résultats des matchs retour des barrages de la Ligue des Champions.
C'était la soirée des zéros pour les perdants. En effet, aucun perdant n'a marqué un seul but. Alors le Standard de Liège a été éliminé par le Zénith Saint-Pétersbourg 0-3. Porto l'a emporté contre Lille 2-0. Celtic Glasgow a perdu contre Maribor 0-1. Apoel FC a remporté contre Alborg 4-0. Et enfin, Borisov a remporté le match contre Slovan Bratislava 3-0. À présent, une page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Nathalie. En 2003, Jocelyne Labille rencontre Passy, Sheila et Jacob Devarieux. Ils réalisent le single « Laisse parler les gens ». Le disque s'évend à plus de 500 000 exemplaires et est nommé aux victoires de la musique. Ce single reçoit la certification disque de platine. On écoute « Laisse parler les gens ».
Hey yo ! Ratatatatatatataï ! Yeah man ! Special combination ! Jocelyne, Sheila ! Original tone, yeah man, respect all time.
Laissons parler les gens, laisse parler les gens.
Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs.
Alors lorsqu'elle était enfant, Jocelyne Labille voulait être danseuse, n'est-ce pas comme sa mère qui était danseuse dans les ballets Caribana?
Oui Nathalie, mais elle a vite changé d'avis hein, lorsqu'elle rencontre José à Vildina et rejoint le groupe Zouk Orchestra, déjà réputé dans la Caraïbe. Mais après 3 albums avec le groupe, Jocelyne Labille décide de déménager en France. Et voilà, aujourd'hui nous avons Laisse parler les gens.
Jocelyne Labille, Sheila, Jacob Devarieux et Passy dans Laisse passer les gens. Merci Roger.
De rien Nathalie et bonne journée à toi.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show chaque jour à 20h, temps universel.
Laissons parler les gens.
Auditeurs, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Bonne journée, on se retrouve bientôt.
Washington.